Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, vaccin, test ou preuve de guérison, le pass sanitaire obligatoire à partir d'aujourd'hui pour les salariés dans les secteurs qui accueillent du public. Comment se déroulent les choses? Nous irons dans le Gers. La CGT opposée à ce pass obligatoire pour les salariés. À 13h30, Philippe Martinez est l'invité de France Inter, 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. De nouvelles règles aussi pour le télétravail. L'État ne fixe plus de nombre de jours minimal. Il passe la main aux entreprises. Quand une entreprise, justement, devient centre de vaccination, c'est Fleury Michon en Vendée. On reçoit aussi les personnes extérieures. Quelques heures de mince espoir pour les dizaines de milliers d'Afghans qui veulent fuir. Les Américains partent demain. 2600 personnes exfiltrées en France. Que vont-elles devenir? Nous en parlons avec la directrice générale de France Terre d'Asile. Une étude de l'organisme officiel France Stratégie valide-t-elle la théorie d'extrême droite du grand remplacement? C'est la rumeur des derniers jours sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes penchés sur cette étude et nous verrons la concurrence à l'extrême droite pour s'en emparer. Dans l'actualité encore, une quatrième médaille d'or pour la France aux Jeux Paralympiques, Fabien Lamyrou en tennis de table, l'année Flaubert, les 200 ans de la naissance de l'écrivain, nous irons près de Rouen, et la météo sans imagination de ce lundi après-midi, nuages au nord et soleil au sud. En ce jour de rentrée sur France Inter, vous retrouvez vos rendez-vous dans le 13-14 à 13h45. C'est une chanson, une personnalité qui marque l'actualité, parle à Frédéric Pommier d'une chanson qui lui tient à cœur. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Qui a votre micro Frédéric aujourd'hui?
Le romancier Maxime Chattam. Il nous fait écouter du Sidney Lauper.
Tiens donc, le feuilleton, une semaine dans la vie d'un infirmier, puis avant 14h, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour camarade.
Aujourd'hui, les mémoires d'un grand journaliste.
Jean-François Kahn de la mémoire avec ses jeux et de l'histoire avec ses méthodes.
Rendez-vous tout à l'heure. Le 13-14, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Et à partir d'aujourd'hui, 1 800 000 salariés devront en dire un peu plus à leur employeur. Le pass sanitaire devient obligatoire pour les salariés des secteurs où il est déjà demandé au public. Bars, restaurants, cinéma, musées, transports longue distance en particulier. Soit un certificat de vaccination, soit un test négatif de moins de 3 jours. Ou encore une attestation de guérison du Covid. Un salarié qui refuserait de présenter le pass risque jusqu'à la suspension de salaire. Une semaine de souplesse est promise par le gouvernement. Ensuite, les sanctions. 83% de la population en âge d'être vaccinée, les plus de 12 ans, l'est désormais en France. La proportion est à peu près équivalente dans les entreprises, selon l'association des DRH. Alors comment se met en place ce pass sanitaire à un moment où les entreprises peinent à recruter? Reportage de Paola Guzzo au restaurant Le Bastion, c'est à Lectour dans le Gers.
Au sein de l'équipe d'une vingtaine de personnes, seule Sylvie, la cuisinière, reste hostile au pass sanitaire. Elle était même prête à démissionner si on lui imposait.
J'ai pris la décision de prévenir mon patron que si c'était pour être obligé d'être vacciné, je préférais arrêter de travailler dans la restauration.
Mais il y a quelques jours, Julien Leclerc, l'un des patrons, a appris avec soulagement qu'elle pourrait rester. Pas d'obligation pour elle parce qu'elle est en cuisine, donc loin des clients.
J'aurais dû, en tout cas, arrêter de faire travailler quelqu'un dont j'ai besoin, avec qui ça se passe bien. Je la remplaçais pas, en fait. Vraiment, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver du monde, et encore plus en cuisine qu'ailleurs. C'est vraiment très compliqué.
Il est d'autant plus soulagé que tous ses autres employés réticents au pass ont changé d'avis, comme Doriane, jeune serveuse qui vient d'avoir sa deuxième injection de vaccin.
Pour le futur, pour mon avenir, pour voir si je veux voyager et tout ça, parce que moi j'ai une envie de voyager. Si je me faisais pas vacciner, ça veut dire plus de travail, plus d'argent. C'est compliqué à 18 ans quand on vient d'entrer dans la vie active. Et j'ai pas vraiment eu le choix en fait.
Tout l'été, le patron s'est démené pour éviter les désertions. Un pari réussi pour le petit restaurant qui pourra continuer le service presque comme avant.
Le pass sanitaire n'a ralenti ni la consommation, ni la croissance, ni l'investissement en France, assure le ministre de l'économie Bruno Le Maire, invité de France Inter ce matin. Un secteur a souffert, et la ministre de tutelle le reconnaît, ce sont les cinémas. Chute de 30% de la fréquentation après la mise en place des contrôles, selon Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. 7 millions d'entrées en moins, selon la Fédération des cinémas. Ce pass obligatoire pour les salariés, désormais dans les secteurs qui accueillent du public, la CGT y est opposée. Jusqu'à quel point est-elle prête à soutenir ceux qui risquent une suspension de salaire? Philippe Martinez est l'invité du 13-14 à 13h30 tout à l'heure, 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. En particulier, si vous êtes dans une entreprise qui adopte aujourd'hui le pass, racontez-nous comment ça se déroule pour vous. Autre sujet avec Philippe Martinez, face au manque de main-d'œuvre, faut-il augmenter les salaires? Et puis les syndicats envisagent une journée de mobilisation sur les questions sociales début octobre. La rentrée économique et sociale, ce sont aussi les nouvelles règles du télétravail qui se dessine. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Fini le nombre minimal de jours de télétravail obligatoire, le gouvernement passe la main aux entreprises.
Exactement, l'État n'impose plus rien en termes de télétravail, ce sera aux entreprises de s'organiser en concertation avec leurs représentants du personnel. C'était une demande qui remontait assez fort du terrain. Au ministère du Travail, on estime que les salariés ont pris goût, quand cela est possible, à une organisation hybride, quelques jours au bureau, quelques jours chez soi. L'ère du télétravail massif semble en tout cas révolue, selon les derniers chiffres publiés ce matin par les services statistiques du ministère. Seuls 3% des salariés sont encore aujourd'hui en télétravail intégral, 5 jours par semaine. 23% des salariés au moins un jour par semaine, pour la plupart 2 à 3 jours, moitié-moitié en gros. Le nombre de jours télétravaillés augmente avec la taille de l'entreprise. Ce sont d'ailleurs les plus grandes qui se disent aujourd'hui partantes pour créer ou faire évoluer les règles qui encadrent la pratique. Pour le reste, c'est-à-dire les règles sanitaires qui encadrent le retour des salariés sur site quand ils reviennent en présentiel, le ministère du Travail publiera demain une nouvelle version de son protocole sanitaire en entreprise.
Et dans les entreprises, le quoi qu'il en coûte a coûté 240 milliards d'euros à l'État. 80 en subventions directes, 160 en prêts. Chiffre donné ce matin par le ministre de l'économie. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini, a dit Bruno Le Maire la semaine dernière devant les représentants du MEDEF. Place aux sur-mesures et réunion ce matin avec les secteurs qui ont encore besoin d'aide pour envisager la suite. Et il détaille, Bruno Le Maire, cette fin du quoi qu'il en coûte. Philippe Lefebvre, la partie aide directe, fonds de solidarité, c'est bientôt fini.
Oui, effectivement, et le sur-mesure semble satisfaire pleinement les représentants des entreprises qui ont participé à cette réunion d'un peu plus de 2 heures avec Bruno Le Maire, où le ministre a redit qu'il ne laisserait aucune entreprise sur le bord de la route, même si la situation économique a évolué.
Il y avait 500 000 demandes d'indemnisation au titre du Fonds de solidarité en mai dernier. On est passé à 50 000 au mois de juillet, soit 10 fois moins. Tout simplement parce que le retour à la normale se marque aussi dans des moindres demandes du Fonds de solidarité. Néanmoins, l'intégralité des dispositifs de soutien sera maintenue pour les départements d'outre-mer qui sont encore soumis à des obligations de fermeture.
Donc, en métropole, le fonds de solidarité disparaîtra fin septembre et à partir du 1er octobre, eh bien, il y aura une indemnisation des coûts fixes pour toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires, entreprises du secteur du tourisme, de la restauration, des cinémas ou encore des salles de spectacle. L'État prendra en charge 90% de la différence entre les charges de l'entreprise et ses revenus pour les structures de moins de 50 salariés et 70% pour les autres, donc les entreprises de plus de 50 salariés. Organisations patronales et gouvernement ont prévu de se revoir au mois de novembre pour faire le point sur ce nouveau dispositif.
Philippe Lefebvre en direct de Bercy avec Stéphane Beaufils pour les moyens techniques de France Inter. Selon le groupement des chaînes hôtelières, la filière des cafés-restaurants a perdu 60% de chiffre d'affaires depuis le début de l'année par rapport à 2019. Le pass obligatoire pour près de 2 millions de salariés dont nous parlions au début de ce journal, c'est une nouvelle et forte incitation à se faire vacciner. 48 400 000 Français ont reçu au moins une dose. On ne sera pas aux 50 millions fin août, mais tout près. Comment vacciner de nouvelles personnes ? En Vendée, une entreprise emblématique du département devient centre de vaccination. Sur le site de Pouzauges, dans l'Est vendéen, chez Fleury-Michon, on vaccine les salariés, mais aussi la population du secteur. Plus de 1000 personnes ont déjà subi la piqûre. Philippe Régorez, France Bleu Loire-Océan.
Ça s'est fait tout naturellement, explique le médecin du travail de Fleury-Michon, Michel Malinet. Les moyens sont là, un médecin, 6 infirmiers, une secrétaire. Après les salariés, les familles des salariés ont pu se faire vacciner. Alors pourquoi ne pas continuer ?
C'était également la demande de l'ARS, vacciner au moins 20% de personnes extérieures à l'entreprise, moyennant quoi on avait à peu près tous les vaccins. On n'a aucune limitation sur le nombre de doses, mais on est ouvert à tout le monde.
Résultat, ce centre, pas comme les autres, peut vacciner plus de 200 personnes par jour, à raison de 2 jours par semaine. Intéressant d'autant plus qu'il n'y a pas de centre de vaccination à Pouzauges. Les habitants doivent aller aux Herbiers ou à Chantonnay, autant dire qu'ils apprécient ce service.
On a essayé les centres de vaccination classiques. Bah, pour trouver de la place en Vendée, il faut aller loin. Hein.
Plutôt pratique, oui. Puis plutôt sympa aussi pour l'entreprise Fleury-Michon.
À ce jour, le service de santé au travail en est à environ 4000 vaccinations, dont 30% pour des personnes extérieures à l'entreprise. Et ça va continuer parce que la grosse tendance, c'est l'afflux des jeunes de 12 à 17 ans. Perrine, 14 ans, est venue avec ses parents de Chantonnay, à une vingtaine de kilomètres.
Et là, on a réussi à trouver un rendez-vous le plus rapidement.
Ils sont même très nombreux, ces jeunes, qui viennent se faire vacciner. beaucoup reconnaissent que c'est avant tout par intérêt.
C'est mieux parce qu'après on peut sortir, on peut faire des activités.
Ce sera pratique pour plus tard, pour les sorties, pour les loisirs aussi.
Le centre de vaccination de Fleury-Mérogis devrait fonctionner encore au moins jusqu'à la fin de l'année.
Un peu plus de 11 000 personnes malades du Covid sont hospitalisées actuellement en France, près de 2300 en soins intensifs. Les chiffres sont stables depuis une petite semaine. Selon Santé publique France, la pression sur les services hospitaliers a cessé de croître, sauf Outre-mer, Martinique et Guadeloupe en particulier.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
16 ans exactement après les ravages causés par Katrina et après les mois de Covid, la Louisiane va-t-elle connaître une nouvelle crise humanitaire? Les nouvelles sont moins alarmantes qu'hier soir, lorsque le cyclone Ida a touché les côtes. Il était alors en catégorie 4 sur une échelle de 5. Il a été rétrogradé à 1, mais il a déjà provoqué la mort d'une personne et 1 million de foyers sont sans électricité. Les dernières informations et images avec l'envoyé spécial de France Inter, Sébastien Paour, à Bâton Rouge.
Des autoroutes vides, recouvertes de feuilles et de branches d'arbres, parfois un tronc en travers de l'une des voies, la route qui conduit à l'œil du cyclone est fantomatique. La pluie tombe à l'horizontale dans les phares et le vent qui fait dévier notre voiture pourtant imposante oblige à garder les yeux grands ouverts. Certains panneaux sont couchés, d'autres arrachés, traversent la chaussée. Les rafales rendent les passages de pont délicats. À la radio, les équipes d'une antenne locale de Bâton Rouge tiennent le micro et tentent de joindre des témoins sinistrés ou secouristes, mais le réseau mobile semble presque complètement à terre, à plus de 200 km à la ronde. Un pompier raconte néanmoins les appels nombreux pour des arbres tombés sur des maisons. Un homme d'une soixantaine d'années n'a pas survécu. Il est inquiet de la pluie qui s'abat toujours et de la montée des eaux qui pourrait inonder plusieurs quartiers de la Nouvelle-Orléans. Malgré les 14 milliards de dollars investis depuis Katrina, il y a tout juste 16 ans, pour renforcer les digues et les pompes. Partout sur le trajet vers l'est, sur cette autoroute 10, les parkings des motels sont pleins. Des pick-up avec des échelles, des camions avec des groupes électrogènes. L'Amérique attend que le jour se lève pour constater les dégâts et commencer à réparer. Bâton Rouge, Sébastien Paour, France Inter.
Katrina, en 2005, avait tué 1800 personnes. 16 ans après, quelques 2000 spécialistes en intervention d'urgence ont été déployés en Louisiane par les agences fédérales. En Afghanistan, la porte va se fermer demain pour les dizaines de milliers de personnes qui veulent fuir leur pays. 15 jours après la prise de pouvoir des talibans, les soldats américains s'en vont demain. Cette porte peut être rouverte, veut croire Emmanuel Macron, devant l'ONU aujourd'hui avec Londres. Paris va défendre le principe d'une zone protégée à Kaboul pour poursuivre les opérations humanitaires. Cela se discutera au sein de ce qu'on appelle le P5, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, Russie, États-Unis, Chine, France, Royaume-Uni. Une safe zone, pour le dire en anglais, autour de l'aéroport de Kaboul. Est-ce que l'idée est réalisable? Question posée au général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
La décision peut être prise rapidement, elle peut être prise dans la semaine. Si elle est présentée aujourd'hui au P5, ça peut être voté à la fin de la semaine, probablement. En revanche, l'exécution est plus compliquée parce que là, il va falloir mettre ça en place auprès des talibans. Alors, il y a les talibans de Doha qui peut-être vont l'accepter ou pas l'accepter, en négocier les pourtours. On sait qu'aujourd'hui, il y a déjà une mission qui est là-bas pour discuter avec eux. Mais ensuite, il y a les talibans de Kaboul. Vous savez, le checkpoint Alpha n'est pas égal au checkpoint Bravo. La sécurité, s'il y a une safe zone là-bas, dépendra de l'action des talibans. L'attentat qu'il y a eu à Kaboul par les djihadistes de l'État islamique avait pour but, bien sûr, d'attaquer les Américains, les Occidentaux et de les tuer, en disant, on va regarder, ils ne sont pas capables de... Mais surtout, aussi de montrer que les talibans n'étaient pas capables d'assurer la sécurité. Or là, les talibans sont devant leur responsabilité.
Le général Dominique Trinquant sur France Info. Le climat est extrêmement tendu à Kaboul à la veille du départ des Américains. Des roquettes ont été tirées vers l'aéroport ce matin, confirmation de la Maison Blanche. Version des talibans, 5 roquettes interceptées par le système antimissile de l'aéroport. Après l'attentat de jeudi dans le même lieu, les Américains en représailles disent avoir effectué une frappe à l'aide d'un drone dans l'est de l'Afghanistan. Bilan toujours selon les États-Unis, 2 membres de haut niveau de l'organisation État islamique tués. Y a-t-il eu des victimes civiles? Réponse des Américains, nous sommes en train d'évaluer les résultats de cette frappe. Depuis la prise de pouvoir des talibans, 114 000 personnes auraient été exfiltrées, 2 600 Afghans ont rejoint la France. Et maintenant, que va-t-il se passer pour eux? Pour en savoir plus, avec nous la directrice générale de France Terre d'Asile, Delphine Rouillot. Bonjour madame.
Bonjour.
Ces 2 600 Afghans, d'abord, où sont-ils actuellement?
Alors, ils sont actuellement hébergés dans des hôtels, à la fois en région parisienne et dans plusieurs villes de province, dans lesquelles ils ont été conduits à leur descente de l'avion depuis une dizaine de jours maintenant.
Et ils sont répartis un peu partout en France ?
Oui, voilà, exactement. Au début, ils ont été accueillis en région parisienne. Et puis, au bout d'un moment, on a un peu élargi les modalités d'accueil. Et donc, il y a beaucoup d'associations un peu partout sur le territoire qui s'occupent actuellement de les prendre en charge, notamment le temps de leur quarantaine.
Alors, à leur arrivée, justement, ils devaient effectuer cette quarantaine. Ils ont reçu un titre de séjour très court. Maintenant, commencent les démarches pour une demande d'asile, un guichet unique, notamment à la préfecture de Paris. Comment vont se passer les choses, Madame Rouillot ?
Alors, elles vont se passer de manière très rapide, en réalité, oui. Puisque les opérations, elles ont démarré ce matin. Donc, les premières personnes qui sont arrivées par le vol de mercredi d'il y a 10 jours sont actuellement, en fait, présentes à la préfecture de police, dans les locaux de la préfecture de police, pour entamer leur demande d'asile. Donc, il y a toute une organisation spéciale qui a été mise en place pour effectivement permettre que les démarches de demande d'asile, qui sont du ressort de la préfecture de police et puis de l'OFI, l'Office français de l'immigration, oui, et de l'intégration, soit faite dans les 15 jours qui suivent l'arrivée des personnes sur le territoire.
Ça signifie qu'il y a aussi un contrôle d'ordre policier qui est effectué sur le profil de ces personnes ?
Alors, je pense que c'est des choses qui ont été faites en amont. C'est-à-dire, oui, que c'est pas à cette occasion-là que ces contrôles ont lieu. Mais bien évidemment, ça a été dit et ça a été rappelé par le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours. Il y a évidemment des contrôles qui ont été opérés pour s'assurer, voilà, du profil de toutes les personnes qui ont été accueillies.
Mais il n'y a pas un nouveau contrôle à cette occasion-là. C'était ça ma question.
Je ne saurais pas vous dire.
Une fois enregistrée la demande d'asile, ces personnes ont des papiers valables pour combien de temps ?
Alors, une fois qu'on enregistre la demande d'asile, on se voit délivrer une attestation de demande d'asile, oui, qui est en fait un document qui permet de sécuriser la présence sur le territoire le temps de l'instruction de la demande d'asile. Oui. Donc, c'est pas un document qui a une durée infinie, si vous voulez, qui peut être renouvelé en fonction du temps de la procédure. Et en fait, ensuite, une fois que les personnes obtiennent le statut de réfugié, elles peuvent ensuite bénéficier d'un titre de séjour de 10 ans. Oui. Et puis après, il y a des personnes qui peuvent être déboutées du droit d'asile, même si je pense que ça sera pas le cas dans l'espèce qui nous occupe, auquel cas, à ce moment-là, elles sont effectivement amenées à devoir quitter le territoire.
Le fait d'enregistrer cette demande d'asile leur donne droit, je crois, corrigez-moi si je me trompe, à un petit pécule et on doit leur trouver un logement, c'est bien cela ?
C'est exactement ça. On va leur trouver un hébergement, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes sont prises en charge par des associations comme France Terre d'Asile et comme beaucoup d'autres associations qui les hébergent et qui les accompagnent avec des travailleurs sociaux dont la spécialité, c'est à la fois de connaître les démarches juridiques d'instruction de la demande d'asile et en même temps de pouvoir les accompagner dans l'inscription des enfants à l'école, ce qui va être un vrai sujet là pour beaucoup d'entre, oui, eux dès la semaine prochaine, et puis des démarches d'accès aux soins, des choses comme ça. Et effectivement, il y a effectivement une allocation pour, oui, demandeurs d'asile qui leur est versée, qui est d'environ 200 euros par mois en plus de cet hébergement.
Et pardon, on passe l'année à parler de crise du logement d'urgence. Il y a de la place pour loger ces 2600 personnes qui arrivent ?
Alors, il y a de la place pour héberger ces 2600 personnes. C'est en tout cas ce que le gouvernement, le ministère nous annonce. Donc, à partir de ce soir, a priori, les personnes vont être progressivement orientées dans ces hébergements. Ce qui va manquer, et c'est ça qui est important aujourd'hui de se réaliser, c'est que le temps d'hébergement dans les dispositifs, il va être limité à l'instruction de la demande. Mais ensuite, il va falloir accompagner ces personnes pour qu'elles puissent s'intégrer. Et donc, il va falloir les accompagner dans l'accès à un logement pérenne, durable. Et c'est là où on va avoir besoin vraiment d'une mobilisation extrêmement forte de toutes les collectivités locales pour qu'elles accompagnent toutes ces personnes aussi dans une installation pérenne dans les territoires.
L'instruction de la demande, il y a une durée moyenne, je ne sais pas, 10 mois, 12 mois, plus que cela ?
Oui, l'instruction de la demande, elle est en général très longue. Il y a un objectif qui est fixé par le gouvernement d'essayer de la ramener à 6 mois, mais on dépasse très largement les 12-18 mois ces dernières années. Et là, l'objectif, ce que l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a annoncé, c'est de vouloir essayer pour ces personnes d'avoir une procédure accélérée qui permette d'aller plus rapidement que d'ordinaire.
Est-ce que vous espérez, Delphine Rouillot, qu'il y ait de nouvelles exfiltrations depuis Kaboul après la date de demain où c'est sans espoir ?
Écoutez, on a entendu les annonces du président de la République hier, et bien évidemment, nous on espère que des rotations puissent se prolonger. La réalité, c'est qu'il y a 2600 personnes qui ont été accueillies en France. C'est bien, mais c'est très insuffisant au regard des besoins, au regard du nombre de personnes qui ont besoin d'une protection, et au regard aussi de toutes ces familles qui sont d'Afghans de France, qui sont en attente de voir leur famille les rejoindre. Donc, on l'espère de tout cœur, et au-delà de ces problématiques de ponts aériens qui pourraient se prolongée. On espère aussi que le gouvernement français va être moteur au niveau européen d'une vraie stratégie d'accueil des Afghans, des femmes, des minorités hazaras, etc., de tous ceux qui pourraient se retrouver très directement ciblés par les talibans et qu'il va falloir pouvoir continuer à protéger dans la durée.
Merci Delphine Rouillot, directrice générale de France Terre d'Asile, d'avoir pris quelques minutes avec nous. Et cette question en Afghanistan, les talibans ont-ils changé par rapport à il y a 20 ans? On peine à le croire, et ce qui filtre du pays depuis leur prise de pouvoir renforce l'inquiétude. Exemple, Benjamin Ili, l'histoire de ce chanteur célèbre en Afghanistan, retrouvé mort ces derniers jours.
Quelques notes et ces mots sur Twitter de l'ancien ministre de l'Intérieur afghan, Massoud Andarabi. Il écrit « La brutalité des talibans continue en Darab. Aujourd'hui, ils ont tué un chanteur traditionnel qui a porté la joie dans cette vallée, une vallée, celle du Panjshir, où des poches de résistance persistent face aux talibans. » Dans cette vidéo partagée sur le réseau social samedi, il y a donc cet homme âgé, barbe blanche, assis sur un tapis, jouant de son instrument les montagnes en toile de fond. L'ex-ministre nous le présente comme Fawad Andarabi, chanteur, abattu devant sa ferme dans des circonstances assez floues selon le quotidien Times of India. Le fils du chanteur, Jawad, s'est confié à l'agence de presse AP. Il affirme que les talibans étaient venus rendre visite à son père récemment. Ils avaient bulleté du côté des talibans. Un porte-parole promet une enquête sans donner plus de détails sur le décès de Fawad Andarabi, selon Agnès Calamar. Un symbole.
Le symbole culturel de cette région, une cible logique.
Elle est secrétaire générale d'Amnesty International.
L'exécution de Fawad Andarabi est un exemple de ce que le Taliban faisait et de ce que le Taliban semble continuer à faire.
Les talibans ont déjà prévenu, la musique est désormais interdite en public, l'histoire se répète. C'était la même chose il y a 20 ans.
De la situation en Afghanistan, Conseil de sécurité de l'ONU dans les heures à venir. La politique en France, quel candidat à droite à la présidentielle? Comment le sélectionner? Alors que l'IFOP interroge des sympathisants à partir d'aujourd'hui. Un nouveau nom sur la liste après Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Michel Barnier et Philippe Juvin. L'entrepreneur Denis Paire est candidat à la primaire, s'il y en a une. C'est un des effets des réseaux sociaux, faire remonter à la surface des informations qui datent de plusieurs mois et en faire un objet de débat aujourd'hui. Des comptes Twitter d'extrême droite font circuler depuis quelques jours l'étude d'un organisme qui dépend du pouvoir, France Stratégie, censé valider la théorie du grand remplacement, cette idée d'extrême droite, selon laquelle la population d'origine uniquement française serait remplacée à terme par celle issue de l'immigration. Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National, s'empare de cette étude à son tour. On voit l'aspect politique dans un instant. D'abord, retour avec vous Adrien Toffolet sur le fond de cette étude qui date de juin de l'année dernière. Que contient-elle?
Alors il faut déjà préciser qu'il s'agit d'une étude qui s'intéresse beaucoup plus largement à la ségrégation résidentielle, les inégalités de répartition dans les territoires en fonction de l'âge, de la catégorie socio-professionnelle ou encore de l'origine. L'attention est aujourd'hui focalisée sur cette dernière catégorie de données dans l'étude qui montre qu'on observe depuis 30 ans une augmentation de la part des immigrés extra-européens en France. Mais rien de nouveau, c'est un constat largement connu et documenté par l'INSEE tous les ans. Entre 1990 et 2017, donc, les pourcentages de ces populations progressent effectivement en très grande majorité dans et autour des plus grandes agglomérations, Paris, bien sûr, l'Île-de-France, plus globalement, la Seine-Saint-Denis en particulier, à Aubervilliers par exemple, 70% des moins de 18 ans sont immigrés ou des enfants d'immigrés extra-européens. Et les démographes l'expliquent depuis des décennies par le fait notamment que l'Île-de-France France est une porte d'entrée de l'immigration dans le pays, que les migrants vont en majorité s'installer là où vivent déjà des populations d'origine étrangère, que cela s'explique aussi par le marché de l'emploi, le marché de l'immobilier. Bref, avec cette étude, on n'a pas assez de données pour affirmer qu'un grand remplacement est à l'œuvre, mais il y a de quoi alimenter le débat toujours.
Bonjour Anne Souhaitement.
Bonjour.
Service politique de France Inter. Cette étude, le Rassemblement National, on a fait très officiellement un argument désormais. Et cela à un moment clé.
Oui, évidemment, le RN s'en est emparé, mais avec des pincettes. Ce week-end, Jordan Bardella, bientôt patron du parti, a déclaré, après l'avoir tweeté, que l'immigration entraînait un changement de population. Mais attention, pas question pour le RN de reprendre formellement la théorie complotiste de l'essayiste d'extrême droite Renaud Camus. Cette formule lui appartient, insiste le maire de Perpignan, Louis Alliot. Je ne crois pas qu'il y ait de main invisible qui organise un changement millions de population, abonde le porte-parole du parti. Mais force est de constater que dans certains endroits, la population a changé. Reprend le même Philippe Ballard qui brandit les travaux de France Stratégie comme une supposée preuve de l'analyse. Alors quoi qu'il en dise, en faisant sienne l'air de rien la théorie du grand remplacement, le RN marque un tournant. Pourquoi maintenant ? Écoutez Éric Zemmour, c'était ce week-end.
La France aujourd'hui est en danger de mort. Et aujourd'hui, la démographie, ça veut dire qu'en 2050, nous serons un pays à moitié islamique. C'est-à-dire que le grand remplacement n'est pas un mythe.
Alors le RN chercherait-il, en parlant grand remplacement, à étouffer une possible candidature Zemmour ? Marine Le Pen commencerait-elle à le craindre ? Officiellement, pas de panique, Éric est un ami, je l'écoute, je le lis, mais ça ne fait pas une politique, minimise Louis Alliot. Un ami qui pousse Bruno, tout de même Marine Le Pen, à remettre un coup de barre à droite en cette rentrée, quitte à revenir sur sa stratégie de normalisation.
La vitesse est limitée à 30 km/h désormais dans quasiment toutes les rues de Paris. Donc à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas une mesure anti-voiture, assure l'équipe d'Anne Hidalgo. Mesure de sécurité pour la baisse du bruit et pour favoriser les mobilités douces. L'actualité sportive est de 4.
Gold medalist and Paralympic champion representing France.
Quatrième médaille d'or pour les Français aux Jeux Paralympiques de Tokyo. C'est pour le plongiste Fabien Lamiraux. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Bruno.
Vous êtes en direct de Tokyo pour France Inter. Il y a même eu une médaille d'argent ces dernières heures. Mais parlons de l'or d'abord.
Oui, argent en natation avec Alex Portal, mais la réussite du tennis de table. Pourquoi autant de médailles dans ce sport ? 7, mieux que le cyclisme sur piste, mieux que l'athlétisme, l'aviron ou le judo. Réponse, j'emmène une équipe de France moins nombreuse qu'à Rio, mais plus forte. C'est ce que disait Stéphane Lelong à la veille des Jeux Paralympiques, le directeur sportif du tennis de table français. Ils ne sont que 2 sur 14 de cette équipe à ne pas avoir connu les Jeux de Rio ou les Jeux de Londres. Ce sont donc des athlètes expérimentés dans cette équipe, mais il y a d'autres raisons, selon Stéphane Lelong.
L'exposition médiatique, et notamment celle qui avait été faite à Rio, a donné de l'élan à un certain nombre de nouveaux. D'ailleurs, cette équipe de France sera forcément renouvelée aussi dans les années à venir. Donc on peut espérer encore de très belles paralympiades. Voilà, donc oui, les médias concourent à donner envie à des personnes qui sont en situation de handicap de faire du sport, de se révéler par le sport. Voilà, donc ça joue. Et puis le travail, parce que on est dans la performance. C'est du haut niveau, il n'y a pas que le handicap.
Les sports paralympiques se professionnalisent, attirent de nouveaux sportifs. Il faut donc continuer à en parler, à les montrer. On sera là dès demain aux côtés de ces champions qui peuvent encore gagner 5 médailles, rien qu'en tennis de table avec les finales par équipe.
Merci Guillaume Batin en direct de Tokyo pour France Inter en tennis. Début de l'US Open aujourd'hui. Djokovic va-t-il faire le grand chelem? Et puis en foot, c'est demain soir que se termine le mercato. Mbappé qui a marqué 2 buts hier. C'était l'entrée aussi de Messi. Mbappé va-t-il rester au PSG? Question clé des heures à venir. 2021, année Flaubert. Le 12 décembre prochain marquera les 200 ans de la naissance à Rouen de l'auteur de Madame Bovary. Flaubert mort à Croisset, tout près de Rouen. Et après de longs mois de travaux, le pavillon Flaubert est ouvert au public. C'est là qu'il a passé une bonne partie de sa vie et rédigé son œuvre. Alors à quoi ressemble ce refuge normand du bon vieux Gustave ? Reportage France Inter à Croisset, Seine-Maritime, Alexis Demeyer.
Le quai Flaubert est très fréquenté par les camions. Cette départementale longe le port de Rouen avec ses grues, ses silos et son incinérateur. Une petite maison à volets verts se distingue dans ce paysage industriel. C'est le pavillon Flaubert dont la pièce principale fait à peine 4 mètres sur 4.
C'était un pavillon d'agrément où on venait les soirs d'été quand il faisait beau.
Yvan Leclerc, président du comité Flaubert 21.
Et on regardait les pêcheurs, il y a beaucoup de pêcheurs dans la Seine. C'est un lieu historique, c'est un lieu très affectif pour les amoureux de Flaubert parce que c'est dans cet environnement-là qu'il a écrit la totalité de son œuvre.
Un pavillon meublé d'un bureau, d'un fauteuil Louis XIII, d'une bibliothèque et d'une vitrine dans laquelle trônent les instruments d'écriture de Flaubert. Ses plumes d'oie et son encrier crapaud.
Il a besoin de silence, de concentration pour écrire. Il travaille 10 heures par jour à son bureau à peu près, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365. C'est pour lui une condition qui lui permet de se poser à l'écart de la vie industrielle, de la vie commerçante, de la vie mondaine.
Ce pavillon est le seul vestige de la grande propriété familiale. Depuis un siècle, une usine en briques a remplacé la maison principale qu'on pourra bientôt visiter virtuellement grâce à une reconstitution 3D.
Reportage Alexis Demeyer à Croisset en Normandie. Dans un instant, la météo d'Élodie Calac, puis l'invité du 13-14, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.
France Inter aime.
J'habite ici, au Théâtre du Rond-Point. Dans sa nouvelle pièce, Jean-Michel Rippe s'entoure de ses fidèles comédiens et de jeunes espoirs. Il compose une symphonie urbaine, une mosaïque de l'époque dont l'humour reste la seule issue de secours. Amoureux à trottinette, Proustien désabusé, SDF joyeux, véganes enragés, policiers poètes, tourbillonnent dans un immeuble qui réenchante la concierge Annie Gregorio, ange gardienne de tous ses démons. J'habite ici, du 3 septembre au 17 octobre, au Théâtre du Rond-Point, un spectacle France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Quelle est la tendance Élodie ?
Alors on a du soleil sur les régions du sud, un peu plus de nuages quand même sur les Alpes, sur les Pyrénées avec parfois une averse, parfois un orage même sur la montagne Corse. En remontant vers le nord, on a plus de nuages, quelques averses possibles sur le quart nord-est, un risque orageux sur la Lorraine et sur l'Alsace dans l'après-midi. Alors ça n'empêche pas quand même quelques périodes ensoleillées, notamment au sud de la Loire dans l'après-midi. Les températures, elles gagnent quelques degrés au nord, mais ça reste un peu timide. 19 à 21 degrés près de la Manche, 21 aussi à Strasbourg, 23 à Paris et 27 à Toulouse.
Merci Élodie Calac, météo France, 13h30 sur Inter.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Et l'invité jusqu'à 13h45, un certificat de vaccination, un test négatif ou une preuve de guérison. Près de 2 millions de salariés sont soumis à partir d'aujourd'hui au pass sanitaire. 1,8 million précisément dans les secteurs qui accueillent du public. L'actualité de la rentrée économique et sociale, c'est aussi une série de rencontres entre le Premier ministre et les syndicats cette semaine. Alors que le MEDEF reconnaît que la question des hausses de salaire va se poser face à la pénurie de main d'œuvre dans beaucoup de secteurs. L'actualité sociale de cette rentrée, on en parle jusqu'à 13h45 avec le secrétaire général de la CGT, 01 45 24 7000, pour vos questions et témoignages. Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Ce pass sanitaire qui entre en vigueur aujourd'hui pour les salariés, pour ou contre ?
Contre.
Pour quelle raison ?
Contre, parce que nous l'avons toujours dit, ça va générer des discriminations, ça génère des contraintes pour les salariés et des risques, vous l'avez noté, des risques de licenciement pour de nombreux salariés. Donc, contre ce pass sanitaire. Nous sommes favorables à la vaccination, nous le disons depuis le début, mais pas de vaccination obligatoire et pas de pass sanitaire. On l'a dit à plusieurs reprises, il faut premièrement faire en sorte que tous les salariés, tout le monde puisse se faire vacciner dans de bonnes conditions. Or, il y a encore des problèmes, on a beaucoup traîné. Et la deuxième chose, c'est il vaut mieux expliquer que d'obliger.
Et pourtant, la situation sanitaire appelle encore des mesures de prudence, de freinage de l'épidémie. On est encore dans une situation où il y a plus de 11 000 personnes à l'hôpital, plus de 2 500 personnes en soins intensifs. Ça ne nécessite pas des mesures supplémentaires en cette rentrée ?
Ça nécessite des mesures supplémentaires. C'est favoriser la vaccination, la favoriser. Or, on a beaucoup tardé à aller vers les citoyens, et nous on l'a dit, dans les entreprises, plutôt que d'attendre qu'ils viennent au centre de vaccination, parfois ils sont loin, parfois les conditions de travail, les horaires de travail ne le permettent pas, il vaut mieux aller vers les citoyens, le monde du travail. Et puis, vous savez, aujourd'hui, alors oui, la situation est grave, mais le fait que le gouvernement annonce qu'il n'y a plus de journée minimale pour le télétravail...
Oui, autre actualité du jour.
Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est grave, mais tout le monde peut retourner au boulot en fonction de la décision unilatérale de l'employeur. Vous voyez, c'est ces annonces contradictoires qui font qu'il peut y avoir des interrogations parmi les citoyens. Et c'est bien ces interrogations qu'il faut lever.
On revient sur le télétravail dans un instant, Philippe Martinez. D'abord, en quoi ce pass sanitaire est source de discrimination ? Puisqu'on demande soit une preuve de guérison, soit un test, soit un certificat de vaccination. Donc des situations, quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner peut avoir le pass sanitaire.
Oui, mais
donc en quoi est-il source de discrimination ?
Premièrement, vous savez, les tests vont être payants bientôt.
Oui.
Ça, c'est une source de discrimination. Deuxièmement, il y a la théorie, et on a déjà des retours, en tout cas, et on est en train de regarder ça, de salariés à qui on dit, si tu ne te fais pas vacciner, c'est dehors. Donc voilà.
Et puis, ce qui est prévu, c'est suspension de salaire au pire, mais pas c'est dehors. Mais vous, là, ce que vous dites, c'est que c'est déjà en train de se mettre en place.
Ce que je vous dis, c'est qu'il y a la théorie et la pratique. Et puis, tous ces contrats précaires, il y en a beaucoup, les CDD, les intérimaires, leur contrat va-t-il être prolongé ? Va-t-il être maintenu ? C'est ces interrogations-là. Or, ça, c'est source de discrimination. Et qui ça touche ? Parce que les plus précaires, c'est les jeunes. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui nous fait dire qu'il vaut mieux convaincre que contraindre.
Et donc vous irez, vous soutiendrez des salariés qui refuseraient de présenter le pass sanitaire, la CGT ?
Bien sûr, et on entend regarder les modalités pour qu'ils ne soient pas licenciés. Il risque, j'avais prévenu le président de la République, il risque d'y avoir beaucoup de recours prud'homo autour de ces questions-là.
On prend Mireille au standard dans un instant. D'abord, question sur le télétravail, puisque vous l'avez abordé spontanément. Ce que dit Elisabeth Borne ce matin, nouveau protocole présenté demain. L'État ne donne plus un nombre de jours minimal et laisse la main aux entreprises. Qu'est-ce qui vous pose problème là-dedans et que souhaite la CGT s'agissant du télétravail, Philippe Martinez ?
Déjà, en termes de message du gouvernement,
oui.
Vous l'avez répété, la situation est grave. Etc. Et puis, comme ça, on dit, télétravail, c'est fini, il n'y a plus de journée minimum, et donc avec le risque que tout le monde retourne au boulot. Donc, soit la situation est grave et on maintient un certain nombre de choses,
oui.
Soit elle n'est pas grave, et là, c'est la deuxième chose.
Et vous souhaitez quoi ?
Premièrement, ouais. Vous savez, on a critiqué le pseudo-accord national qui a été signé, puisqu'il n'y a aucune contrainte. Donc, nous voulons un cadre national valable pour toutes les entreprises. Après, on est bien conscient que dans certaines entreprises, en fonction des boulots,
ouais.
Il y a des adaptations possibles. Mais il faut un cadre national, ce qui n'existe pas aujourd'hui.
Que l'État continue à dire 1, 2, 3 jours par semaine minimum.
Soit il continue à dire ça, soit on renégocie un accord national qui prévoit un certain nombre de choses applicables dans toutes les entreprises. Et là, parce que là, ce que dit la ministre, c'est chacun fait ce qu'il veut dans sa boîte. Vous allez avoir des salariés qui vont faire le même boulot et qui n'auront pas la même application du télétravail. Là aussi, ça génère de la confusion et ça attise les colères, etc.
Mireille au standard de France Inter. Bonjour Mireille.
Bonjour, merci de prendre mon appel. Bonjour à tout le monde.
Bonjour, nous vous écoutons.
Alors, Monsieur Martinez, depuis 7 semaines de manifestations spontanées où la direction de la CGT, je ne parle pas des militants de base, a brillé par son absence, Monsieur Martinez, comment allez-vous faire pour réussir un grand écart entre vaccination déguisée par l'obligation du pass sanitaire et le travailleur qui refusera, pour le respect de ses droits, de se faire vacciner sous la menace et le chantage de perdre leur travail? Je vous remercie de répondre à ma question.
Philippe Martinez-Mireille faisait allusion donc aux manifestations contre le pass sanitaire ces derniers samedis. On a vu des banderoles de la CGT, mais il n'y avait pas d'appel de la CGT nationale. Est-ce que ces banderoles vous ont gêné d'abord ?
Non, pas du tout. À partir du moment, premièrement, il y a des appels locaux en fonction des organisateurs des manifestations. C'est pas la CGT au niveau national. Il n'y a pas de coordination nationale. Ça nous renvoie à une autre époque.
Mais est-ce que vous comprenez, voire vous approuvez les gens qui descendent manifester le samedi?
Ceux qui défilent contre le pass, oui. Mais il n'y a pas que ça dans les manifestations. Et de nombreux reportages le montrent. Ceux qui sont contre la vaccination, je dis pas contre la vaccination obligatoire, je pèse mes mots. Ceux qui sont contre la vaccination, qui colportent des fake news,
oui.
Qui ont des panneaux ou des pancartes qui sont racistes, antisémites, nous ne défilerons pas à leur côté. Et il y a quelques endroits, et je ne classe pas tous les manifestants dans ce camp-là,
oui.
Mais il y a quelques endroits où nos camarades disent « on ne peut pas aller défiler avec eux, c'est tout ». Donc, par contre, par rapport à ce qui a été dit...
S'il n'y avait que des gens contre le pass sanitaire, la CGT y serait à bloc.
On y serait, mais évidemment.
Ce que vous nous dites, on ne veut pas être mélangé avec des antisémites, des manifestants d'extrême droite, c'est ça que vous dites.
Et des anti-vaccins.
Oui.
Donc, il faut faire la nuance entre... Nous sommes pour la vaccination, je le répète, mais contre la vaccination obligatoire. Et nous l'avons dit depuis des mois. Il vaut mieux essayer de comprendre les réticences à la vaccination. Je pense au personnel soignant, par exemple, qui sont, eux, les mieux placés. On a des explications quand on va discuter avec eux. Mais si on les oblige, ça raidit tout le monde.
Donc vaccination obligatoire pour les personnels soignants à partir du 15 septembre, c'est non aussi de votre
point
de vue.
Bien sûr que c'est non. Pourquoi ceux qui sont, j'allais dire, au quotidien confrontés aux malades refusent la vaccination? Il y a des raisons. Ils ne comprennent pas que l'année dernière, on les obligeait à venir travailler, même s'ils étaient cas contact, voire s'ils étaient malades. Et cette année, on change. Ils ne comprennent pas pourquoi, vu l'urgence de la situation dans les hôpitaux, on continue à fermer des lits, on continue à fermer des services. Voilà ce dont quoi il faut discuter, plutôt que de dire c'est comme ça et c'est pas autrement.
Question de Michel qui permet d'aller un peu plus loin sur ce sujet. Bonjour Michel.
Oui, bonjour France Inter. Félicitations pour vos journaux et vos émissions.
Merci.
Monsieur Martinez, bonjour. J'ai une question à vous poser qui est très simple. Monsieur Martinez, vous êtes à la tête de la CGT qui, depuis un certain moment d'armée, est systématiquement contre toutes les mesures gouvernementales, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, vous vous opposez au pass sanitaire dans les hôpitaux et vous dites qu'il y a une forme de discrimination. Les sondages démontrent que dans les hôpitaux les plus réticents à la vaccination sont les aides-soignants et aides-soignantes, les infirmiers et infirmières. Et on s'est aperçu, ce sont également les différentes études qui ont été faites par les spécialistes, que c'est un corps de métier qui est traditionnellement favorable à la CGT lors des élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière. Pouvez-vous m'expliquer clairement votre position, qui me paraît, je vous le dis, Monsieur Martinez, totalement aberrante?
Est-ce que, Monsieur Martinez, vous faites, au fond, c'est ce que nous dit Michel, vous suivez la base et vous dites, voilà, il faut faire un peu de démagogie auprès des adhérents.
J'entends bien ce qui vient d'être dit. Enfin, je l'ai répété. Premièrement, une très grande majorité de soignants sont vaccinés. C'est bien de rétablir, oui. Parce qu'il y a eu une période où c'était limite.
La vaccination des soignants a augmenté ces dernières semaines,
voilà,
et derniers mois.
Première chose. Deuxièmement, je dis.
Sous l'effet du pass, peut-être d'ailleurs.
Non, voilà, à force de discuter. Deuxièmement, je dis, je n'ai pas le pouvoir que prétend votre auditeur. Et je ne souhaite pas l'avoir d'ailleurs. Je dis simplement, et je vous le répète, nous sommes pour la vaccination, mais il faut essayer de comprendre pourquoi ces personnels qui sont au quotidien au plus près des malades, et même avant la Covid, sont dans cet état d'esprit. Eh bien, on pense que ce qui s'est passé l'année dernière, ça a des effets, je vous l'ai dit.
Oui.
On les a obligés à venir travailler, même quand ils étaient cas contact ou malades. Et puis, il y a derrière toute cette colère, il y a des colères sociales. Oui, on a dit le Ségur de la santé, vous savez, cette négociation, allez tout régler. Il y a des lits qui continuent à fermer, des services qui continuent à fermer. Moi, j'ai vu, y compris durant mes vacances, des EHPAD qui sont en grève par manque d'effectifs.
Mais c'est pas deux choses différentes, Philippe Martinez.
Non.
C'est-à-dire le statut très particulier des soignants qui sont au contact des patients dans un univers médical où on essaye de limiter le plus possible la circulation, évidemment, du virus. C'est pas deux sujets différents.
Non, parce que quand il y a des colères qui s'accumulent, eh bien, quand elles explosent, il y a tout qui ressort. Mais ce qu'il faudrait poser au gouvernement, c'est oui, on a besoin d'une santé publique plus forte. Pourquoi on continue à fermer des lits? Pourquoi on continue à fermer des services? Pourquoi on manque de personnel? Pourquoi, puisque votre auditeur aime bien les statistiques, pourquoi il y a près de 40% du personnel, infirmiers, aides-soignants, qui disent peut-être qu'on va changer de métier au bout de quelques années? C'est à ça qu'il faut essayer de répondre. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre, plutôt que de les culpabiliser. Vous savez, ils ont été applaudis, acclamés l'année dernière, et puis maintenant, tous les maux de la terre reposeraient sur les soignants. Faut être sérieux et faut être responsable.
Journée de mobilisation intersyndicale début octobre, Philippe Martinez.
Il y a une intersyndicale ce soir qui décidera des modalités et des slogans d'une action début octobre.
De 1 à 10, probabilité que tous les syndicats soient réunis début octobre, vous donnez quel chiffre?
Alors, il y a moins de 10 syndicats.
Ok.
Je vais dire 80%.
80%. Sur quel thème? Hausse des salaires?
C'est toutes les questions sociales. Oui, les salaires, il faut les augmenter depuis le temps qu'on le dit.
Comment on fait pour les salaires? On augmente, augmentation générale, ou on négocie secteur par secteur, en particulier les secteurs qui manquent de main-d'œuvre?
La meilleure façon, c'est que le gouvernement prenne la main, parce qu'il l'a, et qu'il augmente le SMIC. Le SMIC, c'est principalement les salariés dans les secteurs où on manque d'effectifs qui sont concernés. C'est les hôtels, cafés, restaurants, c'est les agents de sécurité, le commerce. Ben, en augmentant le SMIC, on oblige l'ensemble des employeurs à augmenter les minima et après de négocier les grilles.
Ouais.
Parce que ça, c'est du ressort des branches.
Jusque-là, le gouvernement a toujours refusé l'augmentation uniforme du SMIC.
Il a augmenté de 0,99%. Quand même, c'était un effort considérable.
Si pas augmentation du SMIC, négociation par secteur?
Négociation par secteur, c'est un déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y aura des salariés pour le même boulot qui ne seront pas payés pareil. Soit on dit ils sont mal payés. Vous savez, c'est les deuxièmes lignes dont on parle depuis un an. Soit on dit ils sont mal payés et le gouvernement force la main au patronat pour dire il faut les augmenter. Bah, soit on laisse faire et puis on va encore pleurer dans 6 mois pour dire il manque des effectifs dans les secteurs que vous connaissez.
La situation économique s'améliore, Philippe Martinez, 6% de croissance, la situation de l'emploi revenu à peu près au stade d'avant-crise, ça vous fait rire ? Vous n'y croyez pas ?
On voit que vous avez reçu le ministre de l'économie ce matin, il a mis la dose.
Et du coup, l'argument du ministre de l'économie, c'est de dire, je ne sais pas si c'est son argument, mais en tout cas, ils avaient dit, si la situation s'améliore, on va pouvoir appliquer la réforme de l'assurance chômage.
Oui, il va jusqu'au bout de sa logique. Premièrement, le chômage n'a pas baissé.
Vous n'y croyez pas ?
C'est la réalité. C'est une catégorie. Vous savez qu'il y en a quatre, on ne va pas rallonger le débat, mais c'est une catégorie qui a baissé. Combien il y a eu de radiation ? Demandez-le au ministre, ou au moins à la ministre du Travail. Combien il y a de jeunes qui sortent de stage et qui vont pas s'inscrire à Pôle emploi parce qu'ils pensent que ça sert à rien?
Il n'y a pas une situation de l'emploi qui s'est améliorée ces dernières semaines et ces derniers mois?
Absolument pas.
Vous
Deuxièmement,
n'y croyez pas.
À qui profite, et d'ailleurs, vous avez peut-être vu, le ministre de l'économie a été ovationné aux universités du MEDEF. C'est les 40 plus grandes entreprises qui battent le record des bénéfices dégagés en 6 mois. Bien, comment on partage ces valeurs, cette valeur du travail, comme on la partage, en augmentant les salaires, en créant des emplois. Donc l'économie est repartie pour certains, mais pour la grande majorité, c'est la même galère.
Merci Philippe Martinez.
Merci à vous.
Secrétaire général de la CGT, d'être venu dans les studios de France Inter. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
C'est la rentrée, toute l'équipe est là, Jean Lebrun, le vif de l'histoire, dans 10 minutes. Les mémoires de Jean-François Kahn, est-ce que les souvenirs qui restent sont les plus importants ?
Ah la mémoire provoque bien des jeux et bien des attrapes.
À tout à l'heure. Avant cela, une semaine dans la vie d'un jeune infirmier, c'est notre feuilleton de la semaine signé Antoine Gignot. Et tout de suite, c'est une chanson. Rebonjour Frédéric Pommier.
Rebonjour Bruno.
À la plage, au camping, à l'heure de l'apéro, le soir, vous avez sûrement croisé quelqu'un, un de ses livres à la main, à moins que ce ne soit vous d'ailleurs. Le romancier français Maxime Chattam, régulièrement dans les listes de meilleures ventes. Ses derniers ouvrages parus ont pour titre L'illusion et Insectes en poche. Et vous-même Frédéric, vous êtes plongé dans l'un des derniers récits de ce maître du roman policier.
Ah bien oui, j'ai passé les derniers jours de mes vacances dans... Insectes, sorti au début de l'année chez Pocket, une histoire bien flippante de meurtres étranges et d'étranges disparitions. L'un des héros est un détective fan de métal, tout comme Maxime Chattam. Il adore le métal, mais c'est d'un titre pop qu'il a choisi de me parler. Souvenir, souvenir, Bruno, une chanson de Cyndi Lauper.
Girls just want to have fun.
J'ai pas mal écouté Cyndi Lauper et j'écoute encore pas mal Cyndi Lauper parce qu'elle a une émotion quand elle chante qui me touche. Mais cette chanson particulièrement, pour moi, c'est simple, c'est la chanson qui me replonge instantanément dans les années 80, mon adolescence. J'entends quelques mesures de cette chanson et j'ai presque des frissons. Hein. Et je suis habité d'une énorme nostalgie, presque une mélancolie, parce que d'un coup, je me retrouve le gamin que j'étais dans les années 80. Toutes les émotions d'un jeune adolescent face au monde, j'étais paumé, j'étais plein de rêves, j'étais très déçu de ce qu'était la réalité. Je me réfugiais de plus en plus dans la fiction, les films, mais aussi beaucoup dans les livres et petit à petit dans l'écriture. Et c'est le tournant de ma vie qui a fait qu'à un moment je ne trouvais tellement pas ce que je cherchais dans la réalité qu'il a fallu que je me l'invente à travers l'écriture. Et c'est ce qui a fait le romancier que je suis aujourd'hui. Donc cette chanson me plonge dans les fondations de l'auteur que je suis devenu.
Souvenir, en effet, cette chanson sortie en 1983, Frédéric.
Sur le tout premier album de Cyndi Lauper. Premier album, premier tube. Maxime Chattam les a découverts un petit peu plus tard, vers l'âge de 12 ans. Et à l'époque, il ne comprenait pas trop les paroles.
Non, je pense que c'est plus tard que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce que racontaient les chansons, à leurs textes, surtout j'écoutais beaucoup de trucs en anglais. Mais quelque part, ça collait un peu aussi à ce que j'étais. J'étais juste pas une fille, mais enfin, j'étais un être humain qui voulait s'amuser et qui voulait rêver. Et je voulais qu'on me foute la paix pour y arriver. Mais c'est toute la force de Cyndi Lauper. Quand elle chante une chanson, elle l'incarne tellement que finalement, même si on comprend pas les textes, on comprend ce qu'elle raconte. C'est ça qui est fort.
Donc on comprend ses rêves d'indépendance, ouais. Ses rêves de joie de vivre. Et ouais. C'était un peu vos rêves aussi.
Mais c'était exactement mes rêves. Moi, je rêvais de ça. Je rêvais de voler de mes propres ailes, d'avoir du plaisir dans la vie, qu'on me laisse profiter. C'est l'époque, l'adolescence, où d'un coup, on se rend compte qu'en tant qu'être humain, on a beaucoup d'obligations. Des obligations sociales, mais au-delà de ça, celles aussi de devenir quelqu'un. Et tous ces trucs-là, en tant qu'adolescent, moi, j'étais pas prêt. Et cette chanson, quelque part, raconte aussi ça. Non, foutez-moi la paix, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter.
Cette chanson de Cyndi Lauper, c'est une chanson que vous écoutez également avec des amis, que vous avez fait découvrir à vos enfants.
C'est-à-dire que quand elle passe, en général, je mets la radio plus fort et il faut plus me parler pendant 2-3 minutes parce que, boum, je me prends un gros shot de Voyage dans le temps. J'ai 45 ans aujourd'hui et vous mettez Cyndi Lauper. Je pense que pendant quelques secondes, je suis à nouveau Maxime, 12 ans, qui rêve de plein d'aventures. Et peut-être comme ça, 10-15 morceaux qui font partie de la bande-son de mon existence, qui m'ont profondément marqué et qui ne se sont jamais désolidarisés de mon âme, quelque part.
C'est sûr que vous avez mis la radio un peu plus fort, vous aussi. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, choix de Maxime Chattam, dont on redonne, s'il vous plaît, Frédéric Pommier, les titres des derniers ouvrages.
L'illusion chez Albin Michel et Insecte, édité en poche chez Pocket.
À demain.
À demain.
Voici venu l'heure du feuilleton, réalisé comme l'année dernière par Lucie Lemarchand. Cette semaine, avec Antoine Gignot, nous passons quelques jours dans la vie d'un infirmier qui vient d'obtenir son diplôme, Julien. Il travaille dans un hôpital du Val d'Oise. À 33 ans, il a vécu sa dernière année d'études et ses premiers pas en tant que professionnel en pleine pandémie. Pas de quoi le faire renoncer. L'hôpital lui a permis, dit-il, de trouver un équilibre et même un épanouissement, même si le travail est difficile et si les journées commencent tôt.
Moi, je me réveille le matin à 5h40 pour être à 6h moins le quart à l'hôpital pour pouvoir prendre les transmissions de l'équipe de nuit qui me donne les transmissions de la nuit qu'ils ont passée auprès des patients, savoir comment ils vont, ce que je dois faire, et ce à quoi je dois m'attendre pour la journée. Par exemple, voilà, pendant le Covid, c'était surtout la saturation qui était importante pour nous. La saturation, c'est le taux d'oxygène dans le sang. Il fallait qu'ils aient un taux supérieur à 95%, parce que les normes, c'est 95-100%. Et donc nous, on se basait sur cette constante-là pour voir aussi si le patient au niveau respiratoire, il était bien ou s'il n'était pas bien. Tout de suite, on pouvait se mettre dans l'ambiance et savoir quelle journée on allait passer ou pas. Si elle allait être compliquée ou si elle allait être plutôt tranquille.
Rebonjour. J'ai un petit tube de sang à vous faire.
La tête, la douleur à la tête, comment ça va?
Ça va. Ça a fait du bien, de l'Ipran?
Oui.
Oui, on va. Ça vous soulage vous, c'est le principal. Bon, s'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à sonner.
D'accord, je vais
vous préparer. Ok. Très bien, à tout à l'heure.
Quand j'arrive dans le couloir, il y a l'accueil des patients qui viennent parce qu'il y a aussi un côté consultation. D'un côté, il y a les consultations à gauche et de l'autre côté, il y a les patients de mon service qui ont des chambres. Et le poste de soins est en plein milieu du couloir entre les chambres. On prend les transmissions et ensuite on va boire un petit café entre collègues avec l'équipe de la journée pour prendre l'ambiance aussi, de savoir comment on est entre nous. Et ce petit moment-là, ça fait du bien avant de commencer la journée. Puis après, nous les infirmiers, on commence à s'occuper des patients et après les aides-soignants commencent à faire les toilettes des patients s'il y a des toilettes à faire. Et voilà, c'est comme ça que la journée se déroule.
C'est dense ?
Ça m'arrive d'être épuisé physiquement parce que j'ai beaucoup dans les hôpitaux, on marche beaucoup. Parce que je vais du poste de soins, je vais voir un patient, je vais voir un autre patient, je retourne au poste de soins. On fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'allers et venues, mais je pense qu'on doit faire un bon 10 km par jour tranquille. Donc physiquement, c'est épuisant, mais moralement, non, moi, dans le service où je suis, on est bien.
C'est essentiellement quoi votre service, les patients qui sont là?
C'est des maladies plutôt chroniques, des maladies infectieuses aussi, ça touche un peu à tout.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans quel état?
Il y a des patients déjà qui sont un peu inconscients, parce que c'est suite à des AVC ou des choses comme ça. On a des patients qui sont étrangers, où il y a un peu la barrière de la langue qui se fait. Moi, je leur donne des médicaments, même si je leur dis ce que c'est, ils ne comprennent pas ma langue, donc c'est un peu compliqué. Si on est organisé, tout se passe bien. Pour chaque situation, il y a un protocole. Après, ce qui arrivait avec le Covid, c'est que les patients arrivaient en masse à l'hôpital et c'était une maladie inconnue. Donc personne ne savait comment agir et comment s'organiser au début. C'est ça qui a été compliqué au début et difficile.
Une semaine dans la vie d'un infirmier, feuilleton signé Antoine Gignot, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Faut-il en ce début de saison rappeler l'esprit de votre chronique qui n'en manque pas? Rappelons quel est l'objet du vif.
C'est pas le mort, le fantôme du passé qui saisit le vif, c'est le vif, le présent, qui saisit et recompose le passé. On croit que l'histoire, c'est le passé, mais c'est plutôt le travail du temps. Enfin, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Saint Augustin remarquait qu'il sentait ce travail du temps qui agissait sur lui, mais quand on lui demandait de préciser, il répondait « j'en suis incapable ».
Alors un exemple, cher chroniqueur.
Vieux de la vieille, souvenez-vous, Frédéric, Jean-François Kahn, il parlait de chansons avant vous, sur France Inter. Il lui est arrivé aussi d'animer le journal à Europe 1, dont un des patrons, Étienne Moujotte, il raconte ça dans ses mémoires d'outre-vie, lui avait recommandé « Coco, pas de chansons à la Nougaro ». À la fin de ton journal, c'est ressenti comme une prise de distance intellectuelle avec le reste de l'antenne. Alors, Kahn, non content d'avoir travaillé dans deux radios bien différentes, vous avez noté combien France Inter, c'est pas Europe 1. Donc Kahn a œuvré longtemps à l'Express de Servan-Schreiber et Giroux. Souvenez-vous, je vous parle de noms que le temps efface. Il a repris aussi les Nouvelles littéraires, fondé l'événement du jeudi, Marianne. Eh bien, observe-t-il, le moment de sa jeunesse où il a travaillé dans un centre de tri des PTT s'inscrit plus nettement dans sa mémoire que les innombrables comités de rédaction auxquels il a participé. C'est quand même étrange. Il est vrai que le leader syndical de son centre, c'est dommage que Philippe Martinez soit parti, avait une autre allure que son rédacteur en chef qui, l'entendant citer avec éloge le philosophe Kant, lui demanda « Mais Coco va l'interviewer d'Ardard !»
Bon, autrement dit, on se souvient plus de l'accident que des jours tranquilles, plus de l'exception que de l'évidence.
De la braguette ouverte du ministre en visite officielle, plus que de son programme d'investissement, de la faute de Français de l'Académie, démission plus que de son discours, de l'incident qui pourrait marquer votre journal, plus que de l'édition ordinaire où Sarah Guibaudeau, notre bien-aimée rédactrice en chef, se félicite, ça roule. Pourquoi, parmi tant de faits divers repérés, Kahn se souvient-il de celui-ci? Une baronne, trouvée morte, ligotée sur sa chaise, une larme dans le dos. Elle avait voulu passer pour la victime d'un crime. En réalité, elle s'était suicidée en renversant sa chaise au-dessus d'un poignard japonais fiché dans le parquet. Chacun veut donner de soi une image pour nourrir la mémoire, à l'histoire, le soin de l'entretenir ou de la déconstruire si elle le souhaite.
Peut-on se fier à nos souvenirs? Nous-mêmes, nous fabriquons des paravents pour repousser dans l'ombre des pans de notre mémoire.
Que dis-je, des pans qui peuvent dissimuler les souvenirs. Ces pans pour fonction de faire écran. Et les souvenirs, nous pouvons aussi les fabriquer parfois de toutes pièces. Kahn s'étonne qu'on se souvienne précisément de ce qu'on a seulement imaginé. Tenez-moi, j'ai écrit un texte récemment. Je cite une statue que je crois avoir vue, un buste que j'ai encore exactement en tête, si je puis dire. Je suis même capable de vous assurer qu'il est assez laid. L'ennui, c'est qu'il semble n'avoir jamais existé. On peut se souvenir de ce qu'on a imaginé. À l'inverse, si nous nous souvenons d'avoir oublié quelque chose ou quelqu'un, nous ne pouvons pas dire que nous l'avons totalement oublié. Faut peut-être que je répète. Nous ne pouvons pas dire avoir oublié ce que nous nous souvenons d'avoir oublié.
Ouais.
C'est du Saint-Augustin. Vous vous rappelez du premier nom cité au début de
cette chronique. Allez l'interviewer, s'il vous plaît.
Oui, mais avant les confessions de Saint-Augustin, vous pouvez lire Kahn. Ce qui est plaisant avec son livre, c'est qu'il ne va pas chercher dans sa documentation ce qui pourrait infirmer ou confirmer ce dont il se souvient.
Vous faites pareil pour la chronique?
La chronique prétend être sérieuse. Les mémoires de Jean-François Kahn ne veulent rien graver dans le marbre. L'auteur, pour notre plaisir, recueille tel quel tous ses jeux avec sa mémoire. Et lui, c'est un virtuose. C'est plus amusant que le vif de l'histoire.
Jean-François Kahn, ça je suis pas sûr. Mémoire d'outre-vie, édition de l'Observatoire. Et Jean Lebrun, le vif de l'histoire, tous les jours avant 14h dans ce 13-14. Bonjour Mathieu Vidard.
Hey, bonjour Bruno.
Après 14h, hey hey, la Terre au carré, ça reprend.
Voilà, ça reprend avec le dernier rapport du GIEC. Alors c'est pas l'un des sujets les plus joyeux de l'été, mais non. C'est important d'en parler.
À tout à l'heure pour la Terre au carré, cher Mathieu Vidard.